Hanifa Chérifi est membre du Haut Conseil à l'intégration. Elle revient dans une conférence donnée dans le cadre de la 23e édition des Journées de la Razette consacrée à l'histoire des relations franco-algériennes sur l'histoire et le parcours de l'immigration algérienne en France. Je vous propose donc d'écouter tout de suite un résumé de la conférence donnée par Hanifa Chérifi.
L'immigration algérienne commence en 1906, c'est-à-dire qu'elle est contemporaine de l'immigration italienne, de l'immigration belge. Et aujourd'hui, lorsque vous ouvrez la radio, que vous voyez des articles, souvent on laisse entendre que l'immigration algérienne est arrivée dans les années 60. J'ai même parcouru évidemment un certain nombre de documents officiels. J'ai découvert dans le rapport de la Cour des comptes qui a été fait il y a une année sur l'immigration qu'on n'avait pas les chiffres concernant l'immigration algérienne qui sont conséquents. Dans les années 1914, par exemple, on compte déjà 5 000 travailleurs algériens. Dans les années 20 et 26, on est à 30 000, 40 000, 50 000. Et il y a un nombre assez conséquent. À chaque fois, le flux migratoire ne se rompt pas depuis cette première date de 1906. Et pourquoi arrivent-ils en 1906 les travailleurs algériens? Bien, on a été les chercher pour casser la grève des Italiens dans les usines de savon à Marseille. L'histoire de l'immigration algérienne est imbriquée dans l'histoire de l'immigration européenne, et alors qu'on l'identifie comme beaucoup plus tardive et même en rupture finalement avec cette immigration. Effectivement, à cette première vague d'immigration qui n'est, parce qu'on voit plusieurs, il y a plusieurs strates dans l'histoire de l'immigration algérienne. Cette première strate d'immigrants arrive avec, et c'est la différence avec les descendants d'immigrés, arrive avec une identité structurée. Ils arrivent à l'âge adulte. Ils sont politisés. Dans les années 20, les travailleurs algériens créent l'étoile nord-africaine. En 1926, ils créent l'étoile nord-africaine qui devient l'outil de revendication et surtout l'outil pour l'indépendance de l'Algérie. C'est donc de l'immigration que part le mouvement de libération nationale. C'est parce que l'immigration algérienne est en contact avec le monde ouvrier français organisé, syndiqué, et que c'est au contact du Parti communiste, c'est au contact du mouvement syndical que se forge l'esprit finalement militant des Algériens. Pour les Algériens, l'immigration est libératrice, émancipatrice. Puisque tant qu'ils étaient en Algérie, ils n'étaient que des indigènes. Ils n'accédaient pas au statut de personne digne comme être humain. Ils étaient effectivement dans un autre statut. Donc l'immigration apporte également cette libération, cette émancipation qui va peut-être accélérer précisément cette prise de conscience, ce travail vers l'indépendance de l'Algérie. Pour la plupart, en tout cas pour ceux qui font partie de l'étoile nord-africaine, sont tous passés par l'école élémentaire. Ils ont donc reçu une éducation scolaire et également ils ont assimilé les idéaux les idéaux républicains, donc de la Révolution française. Et c'est au nom, et c'est pas du tout contre la France. Joram Rouch dit souvent qu'il y a deux visages de la France, celui qui est le visage libérateur à travers effectivement les idéaux républicains, et puis l'autre visage qui opprime. Eh bien, justement, pour ces Algériens, ils revendiquent l'indépendance au nom même des idéaux républicains, au nom de l'égalité, et non pas au nom d'une identité islamique ou au nom de quelque chose qui serait séparé de cette formation scolaire. L'immigration va connaître, on le sait, alors quand on regarde les chiffres, la présence algérienne en France, il fluctue d'année en année. C'est-à-dire que les Algériens venaient en France comme les marins bretons partaient en mer. Ils partaient pour 6 mois, ils partaient parce qu'il y avait la misère, qu'il fallait construire la maison, qu'il fallait aider le fils. Il y avait une circulation extrêmement intense et les gens ne restaient pas longtemps, ils restaient au maximum 2 ans. 2 ans, c'était l'exil. Il faut voir aussi quelles étaient les conditions de travail du monde ouvrier de ces années. Mais toujours est-il qu'il y a un mouvement continu jusqu'à 1974, au moment de l'arrêt de l'immigration. Et ce phénomène de balancier, d'aller et venu, ne reste pas finalement sans effet sur la société d'origine, sur le pays d'origine, sur le milieu même rural. On voit en particulier la société kabyle, parce que c'est jusqu'au 1930-40, l'essentiel de l'immigration algérienne est kabyle. À partir des années 40, arrivent des Algérois, arrivent les Oranais, et ce n'est d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, alors que là encore, dans des écrits officiels ou dans des écrits des rapports, on nous parle globalement de l'immigration maghrébine, comme s'il y avait une espèce d'unité, alors que l'arrivée des immigrations est différente, à des dates différentes, et il n'y a pas, on ne peut pas aujourd'hui parler d'immigration maghrébine. Et on voit se transformer dans le village, dans le milieu familial, la société, y compris avec des emprunts de langue française, mais des emprunts de langue française qui viennent des mots utilisés ici par l'ouvrier. Et quelque chose qui est absolument inconnu s'amorce, toute une production de chansons qui raconte l'immigration.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires.
Alors, sur, je disais, donc jusqu'en 1974, cette immigration est une immigration qui, qui n'est pas tentée par l'assimilation, à laquelle on ne propose pas d'assimilation, à laquelle on ne propose pas de modèle d'intégration, qui ne demande pas d'ailleurs la nationalité française non plus. Puisqu'on lui a refusé, à cette population, on lui a refusé la nationalité française en Algérie, elle ne recherche pas spécialement à acquérir la nationalité française en France. Le projet des premiers immigrés, c'est d'accéder à la nationalité algérienne. C'est de construire un État qui leur permette d'accéder à la nationalité algérienne. Jusque dans les années 74, il y a cette masse de population qui est intégrée, puisqu'elle ne pose pas de problème. Elle travaille. Jusque-là, nous n'étions pas dans la crise économique qui s'est aggravée après 1974. Et elle continue à faire, effectivement, sa navette. Cette immigration a payé un lourd tribut, puisqu'il repartait en Algérie souvent avec de la tuberculose, mais également avec le 17 octobre 1961, lors de manifestations pacifiques, toujours pour l'indépendance de l'Algérie. À partir de 1974... et peut-être même jusqu'en 1981, une autre figure de l'immigration va apparaître à travers l'image du beurre. Et donc cette jeunesse émerge au moment où la gauche arrive au pouvoir. L'arrivée de la gauche est une formidable opportunité pour l'immigration, il étend aux étrangers, naturellement aux immigrés, le droit d'association avec la loi 1901. Jusque-là, les étrangers, en particulier les immigrés, ne pouvaient pas créer d'association. C'est donc après Mitterrand qu'on voit une explosion d'associations issues de l'immigration. Il ouvre également la possibilité de créer des radios libres. Et là, on a aussi, toujours dans cette idée de double appartenance, on a sur les ondes, on a à travers des associations le développement d'une culture mixte. Il ne faut pas oublier la date qui est la date fondatrice pour les descendants d'immigrés, c'est 1983, la fameuse marche que l'on dit beurre, mais c'est la fameuse marche pour l'égalité et contre les crimes racistes. On voit partir des Minguettes, de Vaux-en-Velin, des jeunes, avec l'appui d'un père de Lorme, une manifestation pacifique en montant vers Paris, pour dénoncer les crimes racistes. Il faut dire que si aujourd'hui on voit des atrocités, on voit des bus brûlés, on voit des femmes brûlées, il y avait aussi toute l'histoire de l'immigration finalement est jalonnée de ces crimes racistes, de ces atrocités d'un côté ou de l'autre. Ils marchent, des gens les suivent et ils arrivent à Paris le 3 décembre 1983 et il y a 100 000 personnes, place de la Bastille, pour les accueillir. Leur slogan, on est en plein dans la double appartenance, leur slogan c'est la France, c'est comme une mobilette, il lui faut du mélange pour avancer. Ils revendiquent l'égalité. Mais toujours est-il que dans l'interprétation qu'en font les médias et dans l'interprétation qu'en font les politiques, malheureusement, et c'est beaucoup plus grave, on identifie les beurs comme étant en rupture avec leur père. Puisqu'ils se disent beurs, c'est qu'ils ne veulent pas être arabes. C'est que cette idée de lien avec le pays d'origine n'existe plus. Ils ne sont plus que des Français en devenir. Ils sont beurs, ils ne sont pas Français. Ils sont des Français en devenir. Mais eux, ce qu'ils revendiquaient, c'était simplement d'être reconnus comme enfants de la République. Et il y avait ce mot d'ordre. Ils sont reçus à l'Élysée par Mitterrand, qui accorde la carte de 10 ans aux immigrés. Mais est-ce que c'était la carte de 10 ans que voulaient ces jeunes ? Ce n'était pas ça. Ils voulaient la carte d'électeur. Ils voulaient voter. Ils voulaient être reconnus comme des citoyens à part entière. Et ça ne s'est pas arrêté là. c'est que le mouvement de cette le mouvement des jeunes a été évidemment a fait prendre conscience à la gauche en particulier. On a eu l'idée à gauche de créer un mouvement populaire, un mouvement de jeunes qui puisse être un lien direct avec le Parti socialiste. Et c'est là qu'on crée en 1984, une année après, SOS Racisme. Beaucoup de gens pensent que SOS Racisme et la marche des beurs, c'est la même chose. C'est exactement le contraire. C'est même la fin du mouvement de revendication des droits, de revendication civique des jeunes descendants des immigrés. Avec la création d'SOS Racisme, on rejette les descendants d'immigrés dans la figure victimaire. « Touche pas à mon pote » était le slogan des SOS Racisme. Donc, ils ne peuvent pas accéder au statut de citoyen. Il y a une telle rupture que les jeunes sortent, ne font pas partie des SOS Racisme, et que jusque-là, j'ai oublié de vous le dire, c'est important quand on a parlé d'islam tout à l'heure, quand on a parlé de voile, 100 000 personnes donc, à la Bastille, pas un voile à l'horizon, pas une revendication communautariste ou ethnique ou culturelle, même culturelle ou de langue, rien, c'était la citoyenneté, nous sommes français, nous voulons être traités comme tels. Comme il y a eu cette rupture et cette déception, se crée un mouvement, le premier mouvement avec une identité arabe. Et là, ça s'appelle le JALB, Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue. Jamais ils n'auraient eu envie, ils n'auraient pensé à créer un mouvement associatif avec une identité ethnique, culturelle. C'était en réponse, en riposte finalement. Mais ce mouvement des JALB n'a pas tenu bien longtemps, puisqu'il n'avait pas de moyens, puisqu'il n'était pas soutenu par le parti au pouvoir, qui lui soutenait SOS Racisme, il va s'éteindre très rapidement. Et 5 ans plus tard, en 1989, qu'est-ce que l'on voit arriver ? Le premier voile islamique dans l'école de Creil. C'est-à-dire qu'à partir de 1989, va s'amorcer la revendication d'une identité communautaire religieuse. Alors, ça, on ne va pas mettre ça sur le dos des SOS Racisme, toujours est-il que les mouvements islamistes présents, depuis 1979 avec la révolution islamique d'Iran, donc l'autorisation de création d'associations de loi 1901 a permis aussi aux islamistes de s'organiser, qui était d'ailleurs une base arrière pour aller militer en Algérie, en tout cas l'islamisme en France a d'abord été la base arrière vers l'Algérie. C'était une façon de continuer le combat. Et l'émergence du voile est un signe de leur présence sur l'échiquier politique et sur l'échiquier associatif. À ce moment-là, s'amorce quelque chose qui est nouveau. Ces jeunes filles interrogées s'expriment sur leur adhésion, leur credo. Elles disent, pour certaines, c'est mon identité. Elles le revendiquent comme un élément identitaire. C'est mon identité. Alors là, il y a les interprétations, il y a les recherches sur ce que signifie ce voile islamique, à quoi il renvoie. Et courant sociologique dominant soutient que c'est du repli identitaire. Or, les islamistes même, il y a des ouvrages qui circulent à l'époque, et notamment un qui s'appelle « La femme moderne » et qui présente évidemment avec un tchador. Il est écrit dans ce livre que le voile n'a pas été apporté en France dans les valises des femmes maghrébines. Donc, on voit bien que ce voile ne fait pas partie des tenues vestimentaires des mères. Les filles, jeunes filles, les quelques jeunes filles en 89 et notamment plus tard en 90-94 disent, commencent à avoir le discours qu'on entend, qu'on voyait en Algérie, c'est-à-dire à se revendiquer comme plus musulmanes que les parents. Et lorsqu'on leur dit, mais puisque ta mère ne le porte pas et toi tu le portes, d'où ça vient? Et elle dit, ma mère est une mauvaise musulmane, moi je suis une bonne musulmane. Moi j'ai lu le Coran, je sais ce qu'il y a dedans, ma mère est analphabète, mes parents sont analphabètes, ils ne comprennent rien, ils savent. On voit arriver quelque chose qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'immigration, c'est le dénigrement par les enfants de l'image des parents. Jusque-là, le dénigrement de l'image des parents, c'était le fait de la société française. Pour la première fois, ce sont les enfants qui prennent le relais et qui, au nom de l'islam, qui disent nos parents sont analphabètes, nos parents sont disqualifiés. Nous sommes devant un phénomène de double rupture identitaire. Ni la France, ni le pays d'origine, mais l'islam. Et nous sommes devant un phénomène qui a été évoqué tout à l'heure à propos de l'Algérie, d'une identité exclusive, que j'ai appelée, moi, une identité de substitution. On n'est pas dans l'identité de filiation, qu'elle soit une filiation à la France ou qu'elle soit une filiation au pays d'origine. On est dans une identité de substitution qui est construite, instrumentalisée par des mouvements sur, évidemment, un fond de crise identitaire, de crise d'adolescence, de besoin de reconnaissance qui n'a pas été peut-être à la hauteur de la demande dans les années 80.
Cette émission s'achève. Merci beaucoup à Hanifa Chérifi ainsi qu'à Alain Darizon.